Question d'islam par Ghalib Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlons du monde imaginal. Vous avez bien entendu imaginal et non pas imaginaire. C'est un intermonde. Pour certains, c'est un monde médian et médiateur. En tout cas, la réalité de ce monde, fût-elle ontologique ou virtuelle, nous en parlerons avec Mathieu Terrier. Mathieu Terrier, bonjour.
Bonjour Ghalib Ben Cheikh.
Merci de venir nous donner de votre temps, de votre savoir et de nous faire l'amitié de nous parler aujourd'hui de ce monde imaginal et du guide de ce monde, qui en réalité est une monographie puisque vous avez repris, présenté, édité et traduit l'épître imaginale. Qui en réalité c'est la lampe magique pour la vision de ce monde imaginal. Alors vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous êtes philosophe, historien des idées en islam, auteur de nombreux ouvrages ayant trait à la philosophie islamique. Si vous deviez donner une définition de ce monde imaginal, que diriez-vous ? J'ajoute simplement qu'on doit le concept à Henri Corbin.
Cette traduction comme enfin, monde
la
imaginal,
traduction, voilà, oui, le dispositif conceptuel.
Tout à fait. D'ailleurs, Henri Corbin affectionnait même la traduction latine, hein, Mundus Imaginalis, qui est très très répandue. Le concept lui-même étant réellement une création de la philosophie islamique ou de la pensée en islam, d'ailleurs à travers différents courants sur lesquels nous reviendrons. Donc l'expression arabe, c'est alam al-misal, qui littéralement se traduirait par monde de l'image, auquel cas il faudrait mettre une majuscule à image, qui a effectivement été rendu par Henri Corbin, et je reprends volontiers cette traduction comme monde imaginal, et comme vous l'avez dit en préambule, imaginal et non imaginaire, pour justement distinguer ce monde d'un monde fictif, fantaisiste, imaginaire en un mot, et peut-être virtuel. Donc justement, cette notion, ce concept de monde imaginal, d'emblée, pointe un monde réel, ontologiquement réel. Tous les auteurs qui en parlent, qui le défendent, qui le théorisent, soutiennent cette réalité ontologique. Ce que l'on peut dire en premier lieu, c'est que ce monde imaginal ou monde de l'image est conçu comme un intermonde, une interface entre le monde intelligible, purement spirituel, immatériel, immuable, celui des idées platoniciennes, et le monde sensible, celui des apparences visuelles, auditives, etc., fugaces, éphémères, et donc dotées d'une réalité inférieure. La partition du monde de l'être en intelligible et en sensible, que l'on doit à Platon, évidemment, à l'origine, laissait subsister un certain nombre de problèmes, à commencer par celui, justement, de la connexion. Comment l'intelligible se reflète-t-il ou se traduit-il dans le sensible? Comment le sensible participe-t-il de l'intelligible? Donc problème métaphysique qui peut aussi devenir un problème éthique, un problème existentiel. Et ce concept de monde de l'image ou de monde imaginal a d'emblée cette fonction d'articuler, de permettre la communication, la circulation, si l'on peut dire, dans les deux sens d'ailleurs, entre l'intelligible et le sensible. Ça, c'est sa première dimension.
Mathieu Terrier, nous aurons l'occasion tout au long de l'émission de faire connaissance davantage avec ce monde ou cet intermonde ou ce monde suprasensible. Mais j'ai cru comprendre ou lire, en tout cas dans votre ouvrage, qu'en ce qui vous concerne personnellement, il y a une sorte de suspension de jugement, cette fameuse idée d'époquer,
oui,
par rapport à ce monde, enfin à son aspect réaliste, ou en tout cas son existence ontologique.
Bien sûr, de ma part. De la part du chercheur, de l'analyste, ce qui me permet effectivement tout de suite de revenir sur Henri Corbin. Henri Corbin, effectivement, a été donc philosophe, orientaliste, décédé en 1979 après avoir vécu et travaillé de longues années en Iran, donc avant la Révolution. Henri Corbin a été effectivement d'abord le découvreur, en particulier de Shihab ad-Din Sohravardi, donc grand philosophe de la fondateur de l'école de l'illumination, Ishraq, au XIIe siècle, et qui fut l'un des fondateurs, inventeurs ou découvreurs du monde imaginal. L'autre étant Ibn Arabi, l'école akbarienne, donc l'école d'Ibn Arabi. Et Henri Corbin a été non seulement le découvreur de Sohrawardi, mais celui qui a mis au centre de l'histoire de la philosophie en islam ce concept de monde imaginal. Et effectivement, Henri Corbin ne se contentait pas de pointer l'importance de ce concept dans l'histoire des idées en islam. Il a fait sienne la conception qu'en avaient les philosophes de l'islam comme d'un monde réel. Et plus encore, Henri Corbin voyait dans la reconnaissance de ce monde imaginal comme monde réel une condition de la renaissance spirituelle, ni plus ni moins que de l'Occident. Et donc effectivement, Henri Corbin fut un militant de la reconnaissance de ce monde imaginal, au point, et c'est aussi ce que je veux rectifier dans mon livre, au point qu'Henri Corbin a pu passer pour être lui-même l'inventeur du concept, comme s'il avait lui-même créé ce concept qu'il aurait rétro-projeté sur les philosophes de l'islam, en particulier les philosophes iraniens et notamment chiites. Or, ce que mes recherches m'ont conduit à constater, c'est que Henri Corbin n'a rien inventé. Ce concept tel qu'il en parle est tout à fait présent dans les textes, et ça n'est pas lui qui insiste sur cette réalité ontologique, mais il l'a, encore une fois, il l'a fait sienne, quoi. Il se vient. Donc, de mon point de vue, même si je conserve quelque chose de la méthode dite phénoménologique d'Henri Corbin, de penser les textes, je dirais, de l'intérieur, en même temps, effectivement, je ne peux que suspendre le jugement du chercheur, de l'analyse, du philosophe sur l'ontologie du monde imaginal, mais aussi du monde intelligible et même du monde sensible. Hein. Je ne prononcerai pas à cet égard.
Dans à la fois la mystique islamique, la métaphysique aussi, d'une manière générale, tout ce qui concerne les aspects spirituels, il y aurait cette topographie spirituelle, ce que vous-même avez appelé une histoire géographie avec un trait d'union. Peut-être que nous les dirions à nos amis auditeurs, il y a le Jabarut, le Malakout, le Mulk. Dans ce lexique de ces lieux, quelle définition leur donneriez-vous pour parler, encore une fois, dans cette description, ce que j'ai appelé une topographie, de ces différents espaces, de ces différents règnes?
Ouais, tout à fait. Cette tripartition du Jabarut, du Malakout et du Mulk plus ancienne en fait en islam que le concept de monde imaginal, mais effectivement le concept imaginal trouve à s'identifier à l'un de ces trois, qui est le Malakout, puisque en général, mais c'est assez variable selon les auteurs, parce que je dirais, il n'y a pas eu un conclave ou quelque chose entre les philosophes et les spirituels de l'islam pour se mettre d'accord sur la définition et l'organisation des concepts. Mais en général, le Jabarut désigne le monde de la toute-puissance divine, donc finalement Dieu et ses attributs, et tout ce qu'il y a de plus immuable et de plus transcendant et de plus immatériel. Le Mulk, le Mulk, qui veut dire le règne, désigne le monde terrestre, le monde physique, en tant que règne de la détermination divine, du Qadar. Et le Malakout, qui est de la même racine que Mulk, mais qui renvoie davantage à la notion d'ange, Malak, que de roi, Malik. Donc le Malakout, c'est le monde angélique. Alors, Il est parfois tout simplement homologué au royaume des cieux. Hein. Celui qui n'est pas né deux fois ne rentrera pas dans le royaume des cieux, c'est le Malakout. Et effectivement, en tant que monde intermédiaire entre, comme les anges d'ailleurs sont les intermédiaires, hein, entre le monde divin, strictement divin, et le monde terrestre, le Malakout est homologué au monde imaginal, une fois le concept du monde imaginal créé, inventé, établi par les différentes écoles.
Bien, les philologues disent que ce qui finit en août remonte à la langue syriaque.
Syriaque, tout à fait.
Et on ajoute à cela le Nassout, qui est aussi le monde peuplé par les hommes. Par
oui, le Nassout, nature humaine, et le Lahout, qui est le monde divin. Mais tout à fait. Ça, c'est ce goût, cet art aussi, dans la pensée islamique, des hiérarchies, et en partie des hiérarchies métaphysiques et cosmologiques. Ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas qu'un seul système, et il n'y a pas de consensus ou de règles entre les penseurs pour établir ces hiérarchies et ces concepts qui sont reprises, modifiées, adaptées par différents courants de pensée. Et ce concept de monde imaginal s'inscrit dans cette histoire en fait de production, de création de concepts et d'hiérarchie métaphysique.
Bien, poursuivons et continuons à faire connaissance davantage avec le monde imaginal. Alors ce serait, moi j'utilise le conditionnel par précaution, le fameux barzakh, le lisme entre ciel et terre, ou en tout cas c'est ce qui ouvre un lieu de séjour des âmes attendant leur résurrection. Ce serait aussi une sorte d'une immense iconostase dans laquelle se reflètent les images, ou l'image avec I majuscule. J'ai lu à un moment que c'est le monde dans lequel les corps se spiritualisent et les esprits se corporalisent.
Voilà, tout à fait. Alors ça, cette formule, elle est de Faith Kashani, qui était d'ailleurs un contemporain de Khotbeddin Ishkawari, qui est l'auteur de l'épître que j'édite et traduit dans le texte. Et effectivement, cette formule donc, d'un philosophe du XVIIe siècle de l'Iran safavide, hein, le monde imaginal, donc c'est le lieu où les esprits se corporalisent et les corps se spiritualisent. Donc c'est vraiment l'idée de l'interface entre le spirituel et le matériel, entre l'intelligible et le sensible. Donc cette formule est restée tout à fait célèbre. Vous avez très justement fait référence, bien qu'au conditionnel, à cette notion de bazar, isme, qui est une notion coranique. Hein, il y a un verset coranique qui le mentionne. Le bazar comme une barrière qui se trouve derrière les hommes après leur mort et qui effectivement les met dans l'attente de la grande résurrection. Alors ça, c'est la deuxième dimension fondamentale du monde imaginal. La première, j'en ai parlé, c'est la dimension cosmologique ou métaphysique, que l'on pourrait dire statique, elle est dans la hiérarchie des mondes. La seconde dimension, c'est cette dimension eschatologique. Le monde imaginal est homologué à cet espace-temps, qui est donc le bazar, l'isme, cet espace-temps entre la mort individuelle, qui nous attend toutes et tous, mais à des moments différents, en des lieux différents, et la grande résurrection, à la fin des temps, où tous nous serons, dans le scénario, hein, ce n'est pas une certitude de ma part, mais où tous nous serons rassemblés pour le jugement dernier. Et donc, entre la mort individuelle et la grande résurrection, eh bien, il y a un espace-temps pour que l'âme connaisse sa première rétribution, qui peut être bien évidemment une rétribution de l'ordre de la récompense si cette âme a bien agi, ou de l'ordre de la punition, du châtiment, si elle a mal agi et mal cru et pensé, puisque les convictions et croyances sont également comptent également dans cette rétribution. Or, pour qu'il y ait rétribution, pour qu'il y ait châtiment ou récompense, il faut qu'il y ait sensibilité. Il faut qu'il y ait un sujet qui sente une forme de plaisir ou de douleur. Or, justement, le monde imaginal, le concept de l'imaginal, permet de penser le corps de résurrection, qui est le corps imaginal. Ce corps imaginal, nous en faisons déjà l'expérience au cours de notre vie d'ici-bas, puisque c'est le corps dans lequel, en rêve, nous pouvons manger, boire, connaître des plaisirs, connaître des souffrances. Et ces plaisirs et ces douleurs ne sont en rien inférieurs à celles du corps physique, sinon par le fait que nos rêves s'interrompent et que nous nous réveillons en nous disant « Ah, cela n'était qu'un rêve » ou bien en le regrettant ou bien en nous réjouissant si c'était un cauchemar.
Et notre propre monde nous fait réveiller à un autre monde.
Absolument. Et ce que soutiennent les philosophes, alors déjà Avicenne, hein, qui ne parlait pas de monde imaginal en tant que tel, mais qui a été le premier quand même à concevoir une résurrection de la sorte, ce que soutiennent les philosophes, il y a deux choses. Il y a premièrement que les plaisirs et les douleurs de l'imagination ne sont en rien inférieurs aux plaisirs et aux douleurs de la sensibilité, et que si ces plaisirs et douleurs de l'imagination venaient à perdurer, à la différence de ceux du rêve, eh bien, ils seraient supérieurs à ceux du corps sensible et donc constitueraient une récompense ou un châtiment supérieur. Et puis la deuxième conviction, là, qui vient vraiment de l'avicénisme, c'est que l'imagination, comme faculté intermédiaire, faculté psychique intermédiaire entre l'intellect, le nous grec, le akl arabe, et la sensibilité, enfin l'âme sensible, l'imagination reste attachée à l'âme rationnelle qui est immortelle. Et donc l'imagination, à la différence des sens externes, l'imagination perdure après la mort de l'individu, et c'est dans et par l'imagination que l'âme doit donc connaître sa première rétribution, ou ce qui est appelé sa résurrection mineure, entre la mort individuelle et la grande résurrection. Ce qui fait aussi que le monde imaginal est assimilé, et notamment dans de nombreuses pages de l'épître traduite ici, est homologué au monde de la tombe, le qabr. Et l'on sait qu'en islam et dans les traditions religieuses des différents courants, la rétribution de la tombe est un thème extrêmement développé et encore aujourd'hui une croyance extrêmement répandue, extrêmement populaire.
Bien, Mathieu Terrier, pourrions-nous dire aussi, c'est peut-être même la dernière ou une des dernières définitions de ce monde imaginal, qui serait le monde des spectres immatériels. Vous avez traduit immatériel, alors il me semble que le terme arabe, mujarrada, renvoie à ce qui est abstrait. Ouais. Donc c'est un monde spectral.
Oui, c'est ça. Alors c'est justement comment dire, toute la difficulté. Comme vous avez dit, mujarrad, ça veut dire abstrait, ça veut dire détaché. Et en même temps, il y a bien des formes qui sont perceptibles. Et on peut parler de corps subtil. On peut parler d'une matière extrêmement subtile, d'esprit, mais qui ne sont pas absolument immatériels puisqu'ils ont une visibilité, sont des formes de manifestation, des lieux de manifestation. Et donc effectivement, ce monde des spectres ou des silhouettes, les ashbar, qui font penser à nos fantômes, à nos apparitions. Ça rejoint un autre aspect très important en fait de ce concept, qui est celui de permettre de rationaliser, de donner raison, de rendre raison, pardon, à un certain nombre de récits, de phénomènes paranormaux qui sont allégués, notamment ce qui est spectre, apparition, fantôme, etc., qui, selon les lois spatio-temporelles du monde physique et de la science moderne, sont des phénomènes exclus comme irrationnels et résolument impossibles. Et ce concept de monde imaginal, sans être un concept scientifique au sens moderne, mais c'est un concept philosophique rationnel, permet de rendre raison de tous ces phénomènes, d'apparition, de manifestation, mais aussi des prodiges, des miracles, des pouvoirs surnaturels attribués aux saints, que ce soit dans le soufisme, dans le chiisme, ou bien simplement aux prophètes. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, ce concept de monde imaginal permet de recueillir, de rassembler et de théoriser un grand nombre de croyances qui passeraient pour des croyances populaires, extravagantes et irrationnelles.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons du monde imaginal, l'intermonde. Il y a plusieurs définitions, un monde médian et médiateur, un isme entre ciel et terre, le monde des spectres immatériels, ce concept philosophique dans la philosophie islamique. Avec Mathieu Terrier, chargé de recherche au CNRS, philosophe et historien des idées en islam et auteur de nombreux ouvrages ayant trait à la philosophie islamique. Et justement, Mathieu Terrier, donc vous avez traduit, édité, en l'ayant présenté, cette épître sur l'imaginal, sur ce monde imaginal, tel un guide d'un auteur. Alors, d'aucuns disent c'est un auteur second, oui. Pas secondaire, mais en tout cas, Qutbuddin Ashkewari à la manière persane ou Ishkewari à la manière arabe en ce qui concerne son gentilé. D'abord, comment étiez-vous intéressé à son œuvre? Son œuvre majeure, c'est L'Aimé des cœurs.
Voilà, c'est le Mahboub al-Qulub.
Mahboub al-Qulub, c'est L'Aimé des cœurs, mais aussi il a cette épître sur l'imaginal. Son nom au complet, c'est La lampe magique.
La lanterne magique.
La lanterne magique pour faire voir ce monde de l'image.
Effectivement, donc Qutbuddin Ashkewari, oui, c'est un auteur singulier dont je dois la découverte à Henri Corbin, une fois n'est pas coutume. Mais Henri Corbin, en fait, n'a écrit que quelques pages, en réalité très peu de choses sur Ashkewari. Mais à l'époque où j'avais lu les travaux d'Henri Corbin et ces quelques pages consacrées à Ashkewari, ça m'avait extrêmement marqué. Son œuvre principale, vous l'avez dit, c'est le Mahboub al-Qulub. C'est une grande histoire. Histoire de la sagesse.
Enfin, pour nos amis auditeurs, c'est L'Aimé des cœurs.
L'Aimé des cœurs, oui. Grande histoire de la sagesse, depuis Adam, premier homme, premier prophète, premier sage, jusqu'à Mirdamad, qui n'était autre que le maître d'Ashkewari. Donc, au XVIIe siècle, Mirdamad est mort en 1631 de l'ère
commune. Disons, en gros, de l'école d'Ispahan.
De l'école d'Ispahan, c'est ça aussi. L'école d'Ispahan, c'est une catégorie créée par Henri Corbin qui est commode, bien qu'elle ne soit pas tout à fait rigoureuse. Les œuvres d'Ashkewari, que ce soit cette épître sur le monde imaginal, je vais revenir sur le titre, ou L'Aimé des cœurs, l'histoire de la sagesse, ces œuvres ne sont pas des rédactions personnelles. Ça n'est pas un auteur systématique, donc c'est pour ça effectivement qu'il ne passe pas, il n'est pas connu pour être un auteur majeur. Ce ne sont pas des rédactions personnelles, il n'y a pas une œuvre de système. Ashkewari est un compilateur, est un rhapsode. Il choisit, il sélectionne, il coupe, il colle, il recoue des textes de sources très nombreuses. Donc c'était quelqu'un de formidablement érudit, de très instruit. Des textes de sources très nombreuses, de registres différents, des traités philosophiques, des hadiths du prophète, des hadiths des imams chiites, des textes soufis, de la poésie. Ashkevari compose des textes arabes et persans, donc on a un collage bilingue de textes arabo-persans et de textes prosaïque et poétique. Donc ce sont des compositions tout à fait originales, surtout qu'il ne cite pas toujours ses sources. Et donc il faut parfois, voilà, enfin il faut souvent effectuer un travail philologique pour retrouver ses sources et parfois même du coup le corriger ou corriger les manuscrits puisqu'il y a un certain nombre de lacunes. Donc ça c'était le travail d'édition du texte à partir du manuscrit unique, qui se trouve dans une bibliothèque de Téhéran. Donc effectivement, c'est un mode de composition particulier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai pu analyser à la fois dans son Aimé des cœurs, l'histoire de la sagesse, et dans cette œuvre, c'est qu'Ashkevari, en fait, développe et exprime une pensée très personnel et très, en fait, très original et de caractère volontiers intempestif ou inactuel à travers ce processus de couper-coller, de composition rhapsodique avec des textes de sources très différentes. Ce qui permet en fait, enfin ce qui oblige même, une double lecture ou une double appréhension de ce texte en particulier, de cette épître, qui est donc à la fois une somme, un compendium de sources sur le monde imaginal, une banque de données sur le monde imaginal, où il a à peu près récupéré et rassemblé tout ce qui se pouvait, tout ce qui avait trait à ce monde, et une œuvre personnelle. Et de plus, je ne l'ai pas précisé au début, mais c'est presque étonnant, c'est la première œuvre, la première monographie sur le monde imaginal. C'est-à-dire que ce concept dont tant d'auteurs ont parlé, et j'ai évoqué les grandes écoles de Sohrawardi et d'Ibn Arabi, n'avait jamais fait l'objet d'un traité en bonne et due forme, consacré à ce concept. Donc c'est la première monographie. Et à la manière de cet auteur, qui, encore une fois, n'est pas un auteur systématique, qui compose et rédige un peu, enfin, selon un procédé qu'on pourrait rapprocher de la libre association en psychanalyse, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que les idées s'enchaînent librement, avec des allers-retours, avec des sauts, des digressions nombreuses.
Donc, un peu à la folle du logis de Nicolas de Malebranche.
Oui, il y a Oui, alors en même temps, très bonne référence, puisqu'il s'agit justement de défendre l'imagination et l'imaginal comme ne relevant pas du tout de l'imagination folle du logis ou de la fantasia. Mais on a effectivement un texte qui est à la fois hybride du point de vue linguistique et du point de vue stylistique, et qui est qui a une construction si toutefois. D'ailleurs, on peut parler de construction extrêmement complexe et tout à fait libre, et qui est donc assez surprenant et qui en fait se trouve être donc la première monographie sur le concept. Le titre est frappant. Alors, il y a deux titres en fait, parce que quand Ashkevari se réfère à cette œuvre dans d'autres œuvres, il parle de la Risala Misaliya, donc l'épître imaginale, l'épître sur l'imaginal, voilà. Mais le titre complet, effectivement, c'est Fanus al-Khayal fi Ira'at Alam al-Mithal. Donc, avec toujours ce sage, hein, cette.
Il faut bien qu'il y ait une assonance.
Voilà, cette prose rimée. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, donc, c'est le Fanus al-Khayal. Parce que Fanus al-Khayal, littéralement, ça veut dire la lanterne de l'imagination. Mais techniquement, ça veut dire la lanterne magique. Cet instrument qui est un peu l'ancêtre du cinématographe et dont on découvre d'ailleurs en passant, sans que j'ai pu remonter à l'origine historique, mais dont on découvre que cet instrument, avant en fait d'être inventé en Europe centrale, parce que quand on regarde dans les encyclopédies et tout, on trouve que la lanterne magique a été inventée en Europe centrale, à Prague, je crois, au XVIIe, en fait ça existait déjà en Iran, et c'est un instrument et un divertissement populaire qui était extrêmement répandu, je pense, jusqu'à l'arrivée du cinéma, dont on sait la popularité et le développement en Iran.
La lanterne magique faisant voir le monde imaginal est le titre long et au complet de cette épître, dans laquelle, et vous y avez fait allusion au début de l'entretien, cher Mathieu Terrier, les sources fondamentales sont Sohrawardi et avec la sagesse orientale illuminative, et Ibn Arabi, l'un des plus grands métaphysiciens ou le plus grand théosophe, comme le dit d'ailleurs même Henri Corbin. Mais en dehors des deux sources, il y a aussi une sorte de synthèse. Et si ce n'est pas une synthèse, c'est en tout cas une confluence, une congruence à la fois de la philosophie chez les philosophes hellénisants, le soufisme ésotérique et la gnose des imams du haut décima, peut-être, ou même d'une manière générale, la gnose chiite.
Oui, tout à fait.
On trouve dans ma question, c'est que c'est ce qu'on trouve aussi dans l'épître.
Oui, oui, tout à fait. Donc là, il y a quelque chose de très important. Donc Ashkevari est un philosophe chiite de l'Iran safavide. Donc c'est que c'est en Iran safavide que le...
Même si on dit qu'il est venu du Yémen. Peut-être qu'il y a eu une sorte de conversion au chiisme, si je puis dire. Ou peut-être qu'il est venu comme Zaïdite et puis
voilà,
il est devenu duodécima.
C'est ça. Alors, enfin, c'est son arrière-arrière-grand-père, qui serait devenu comme Zaïdite ou Ismaélien, qui se serait converti au chiisme duodécima. On peut rappeler que c'est en Iran safavide, au début du XVIe siècle, que le chiisme duodécima, donc aux 12 imams, a été déclaré religion officielle, religion d'État. Bon, s'en est suivi la conversion de la société iranienne. Pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, conversion de la société iranienne qui a été permise par la venue, j'utilisais une expression anachronique, mais l'immigration choisie de savants, de ulama chiites des pays arabes, de l'Irak actuel, du Jabal Amil au sud Liban actuel, foyer chiite jusqu'à aujourd'hui, comme on le sait. Voilà. Et donc, Ashkevari est un descendant, effectivement, d'un immigré du Yémen, ce qui est assez original, qui peut-être, avant d'être chiite duodécimain, était chiite ismaélien ou zaïdite. En tout cas, Ashkevari est un chiite convaincu, ce qui ne veut pas dire orthodoxe. De toute façon, orthodoxe, ça ne veut pas dire grand-chose en islam et dans le chiisme encore moins. Mais c'est un chiite convaincu. Et ce qui est original dans cette épître, bien que ça ne soit pas propre à Ashkevari, parce que d'autres auteurs font la même chose, c'est qu'il attribue non pas l'invention du concept, mais la découverte du monde lui-même, la découverte du monde imaginal, il l'attribue aux imams chiites, donc à commencer par Ali ibn Abi Talib, cousin gendre du prophète, puis ses enfants Hassan Hussein et les descendants de Hussein, jusqu'au 12e imam entré en occultation.
Avec une mention spéciale pour Zin al-Abidine.
Avec une notion spéciale pour Zin al-Abidine, qui était le 4e imam, et une mention, je dirais, encore plus spéciale pour Ja'far al-Sadiq, qui est le 6e, et à qui sont attribués la plupart des hadiths ou des traditions ésotériques. Ce qui est particulier, c'est que les hadiths des imams, aucun hadith des imams ne contient l'expression « alam al-misal ». Donc, ils ne parlent pas explicitement du monde imaginal. C'est un concept qui apparaît dans la philosophie et dans la théosophie à des siècles plus tardifs. Mais les hadiths des imams parlent des corps spectraux des croyants après la mort, du compagnon de la tombe, d'un certain nombre de phénomènes et aussi de leurs propres prodiges, les prodiges attribués aux imams. Et tout cela permet, bien sûr, au prix d'une interprétation, d'une herméneutique, mais l'herméneutique est très développée dans le chiisme, donc ça n'a rien de, pour le coup, de très hétérodoxe de faire ça, au prix ou au bénéfice d'une herméneutique, ces penseurs de l'époque safavide et Ashkevari en particulier retrouvent dans les hadiths des imams le monde imaginal. Et dès le début de l'épître, il évoque ces hadiths des imams qui, pour lui, ne se comprennent rationnellement que par la référence au Alam al-Misal, le monde de l'image ou le monde imaginal. Donc pour lui, c'est en fait la première source. Et encore une fois, ça rejoint d'ailleurs votre question de départ sur la suspension du jugement et le rapport à Henri Corbin, c'est que, moi bien sûr, dans le livre, je parle de la généalogie d'un concept, de la création d'un concept, et j'en parle d'autant plus résolument que la création de concept, c'est ce qui définit la philosophie selon Gilles Deleuze, et que c'est ce qui permet justement de reconnaître l'activité philosophique en islam, notamment après Averroès, bien après Averroès. Donc, moi, je parle de la généalogie et de l'invention ou de la création d'un concept, mais cet auteur et les autres ne parlent pas d'un concept, ils parlent d'un monde réel. Et donc, pour eux, ce monde réel, il n'a pas été inventé, il n'a pas été créé par des penseurs, il a été découvert. Et les imams, non seulement voient et font voir le monde imaginal à travers leurs hadiths, notamment les hadiths portant sur l'eschatologie, hein, sur la mort individuelle et ses suites. Mais les imams sont aussi censés être en quelque sorte les premiers habitants du monde imaginal, puisque d'après la tradition chiite, avant la création du monde physique, du monde terrestre, les imams vivaient en tant que silhouettes, ashbar, ou particules, var, dans un monde, un monde pré-créaturel, archétypal, dont ils sont issus, et monde qui est là aussi homologué rétroactivement, au monde imaginal par ces penseurs de l'Iran safavide au XVIIe siècle.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons du monde imaginal, j'insiste, le monde imaginal, avec le philosophe Mathieu Terrier, auteur de nombreux ouvrages. Et aujourd'hui nous avons la joie, le plaisir aussi de discuter de ce guide du monde imaginal à travers l'épître sur l'imaginal d'Ashkevari. Vous avez, cher Mathieu Terrier, présenté, édité, traduit cette épître dont le nom complet c'est la lanterne magique faisant voir le monde imaginal. Pour cette dernière partie, si on parle de l'épître elle-même, elle est caractérisée déjà par une diglossie arabo-persane. Pour nos amis auditeurs, la différence entre la diglossie et le bilinguisme, si on est bilingue, on parle deux langues, mais on ne les brode pas, voilà, en quelque sorte. Mm-hmm. Vous avez parlé de macaronisation.
Oui, macaronisme.
c'est le fait d'avoir dans le même texte des passages en arabe et des passages en persan. Mm. Parce qu'il voulait les laisser. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix ?
Alors, il y a à la fois un procédé, comme je le disais, il y a le procédé de couper-coller. Donc, voilà, il prend des textes et puis il les agence, il les enchasse. Littéralement, donc il ne traduit pas si c'est un texte en persan, si c'est un texte en arabe, et comme effectivement Ashkevari était bilingue et que la plupart des savants de son temps l'étaient, il n'y a aucune raison de traduire les textes persans en arabe ou les textes arabes en persan, Bien que, parenthèse, Ashkevari est aussi l'auteur d'un tafsir du Coran, donc un commentaire coranique, dans lequel, en revanche, il traduit systématiquement les versets du Coran et les hadiths en persan. Mais là, il ne le fait pas. Là, il cite les textes dans leur langue originale, et donc le procédé de collage génère une alternance de l'arabe et du persan. On remarque d'ailleurs, c'est bien connu que le persan est une langue particulièrement poétique, et le cliché veut parfois que l'arabe soit la langue scientifique, rationnelle, philosophique, et le persan la langue littéraire, poétique, etc. L'épître montre que ce n'est pas exact, puisque il y a de nombreux textes philosophiques, argumentatifs en persan, et il y a des poésies en arabe. Mais il est vrai que dans la proportion, on trouve une majorité de vers poétiques persans, une minorité arabe, et on trouve une majorité de textes argumentatifs, philosophiques, démonstratifs arabes et une minorité en persan. L'autre chose, c'est que à l'époque d'Ashkevari, donc à l'époque de l'Iran safavide, 16e-17e siècle, on a notamment, du fait peut-être de cette immigration arabe dont j'ai parlé, on a des savants qui sont, alors déjà, qui sont à la fois des savants religieux, des fuqaha, des ulamas, et des philosophes et des mystiques. Et puis on a des savants qui sont pénétrés de ces deux langues et de toute cette culture multiséculaire de la philosophie, de la mystique. Et la langue qu'ils emploient en persan, là je parle du persan de ces philosophes safavides, est un persan tout à fait arabisé, non seulement dans le vocabulaire, ce qui est classique, mais même dans la grammaire. On sait notamment, il y a une particularité du persan, c'est qu'il n'y a pas de genre. C'est d'ailleurs, on fait une langue très moderne, hein, d'un certain point de vue, c'est une langue non genrée. Donc il n'y a pas de distinction entre le masculin et le féminin en persan. Mais dans le persan des philosophes safavides et d'Ashkevari en particulier, on trouve les adjectifs au féminin, on trouve une arabisation de la grammaire persane. Donc on a vraiment une langue hybride et pas effectivement seulement une juxtaposition d'extraits d'arabe littéral ou de persan classique.
Cette hybridation n'est-elle pas voulue pour rendre accessible une hiéroscience, ouais, si je puis dire, une science sacrée, vous qui êtes intéressé depuis un moment à la hiérohistoire. Donc c'est pour rendre compte des subtilités de la science sacrée remontant jusqu'aux prophètes, en tout cas pour les gnostiques musulmans.
Peut-être. Alors, il est vrai, et ça c'est aussi tout un paradoxe de l'œuvre d'Ashkevari, c'est qu'il y a manifestement dans cette épître, comme dans l'Aimé des cœurs, une démarche qu'on appellerait aujourd'hui de médiation scientifique ou de vulgarisation, c'est-à-dire qu'il semble bien s'adresser à un large public et pas seulement à des savants de premier rang. Ce que traduit d'ailleurs le caractère non systématique et très libre en fait de ses œuvres. Donc c'est possible. Et le paradoxe, c'est que du fait de cette composition hybride et diglossique, un texte comme celui-là, aujourd'hui en Iran, est lisible par très peu de gens parce que beaucoup d'Iraniens ne lisent pas l'arabe ils lisent l'arabe mais enfin ils ne le comprennent pas aisément et que ce persan tout à fait arabisé jusque dans la grammaire et parfois même dans la structure
leur est hermétique
voire pour certains repoussant.
Donc c'est et abscons.
Et abscons, voilà, tout à fait. Donc il y a vraiment un paradoxe de cette œuvre qui Et ça rejoint un autre paradoxe, qui est qu'à la fois Ashkevari semble effectivement s'adresser à un large public et avoir vraiment une démarche de vulgarisation, et en même temps c'est un auteur confidentiel qui manifestement a produit son œuvre dans des conditions de solitude et d'isolement assez important, et dont la visée, je l'ai dit, est gnostique, c'est le salut par la connaissance. Et il y a non seulement un rejet de l'ego, mais même un rejet de la compagnie des hommes. De ce point de vue-là, d'ailleurs, Ashkevari s'inscrit dans une tradition ancienne en Iran, qui est celle des malamati, les compagnons du blâme, ou les partisans du blâme, qui ont eu plusieurs avatars, je dirais, enfin, qui ont vécu et sont exprimés sous différentes formes, mais dont une des constantes, c'est effectivement de repousser la compagnie des hommes, fût-ce en attirant leur blâme par des conduites provocatrices, pour se rapprocher de Dieu, pour priver de...
atrophier leur ego, voilà, et l'annihiler.
Voilà, atrophier leur ego, réduire leur plaisir mondain et se rapprocher de Dieu. Et donc la vulgarisation, vous voyez, dans tout ça, on se demande où elle passe finalement.
Mathieu Terrier, peut-être pour revenir à la fois au monde imaginal et ces résonances qu'on pourrait trouver dans la partie occidentale du monde, la facture philosophique, pour la partie philosophique du triptyque qui constitue l'épître, la partie philosophique, la falsafa hellénistique, la partie gnostique et puis une approche ésotérique ou spirituelle, en tout cas les trois que vous avez évoqués tout à l'heure, la partie philosophique serait de nature pythagorico-platonicienne ou pas? Elle est essentiellement de cette facture-là.
Essentiellement de cette facture-là. Alors, en tout cas, merci d'évoquer Pythagore, parce que c'est une grande figure pour Ashkevari et d'autres philosophes de l'époque safavide. Il y a vraiment un néo-pythagorisme assumé. Pythagore, on le sait, a eu une ascension céleste, il a entendu la musique des sphères, etc. Et ce récit, qui est bien connu des auteurs musulmans, est présent dans l'épître comme un témoignage du monde imaginal. Donc Pythagore, alors bien avant les imams chiites, aurait été, enfin bien avant les imams chiites dans leur vie historique, pas dans leur préexistence métaphysique, mais Pythagore aurait été l'un des premiers visiteurs et l'un des premiers témoins du monde imaginal. Donc oui, tradition pythagorico-platonicienne, mais aussi aristotélicienne et même aristo-galénique. Il y a une volonté dans cette épître de concilier, j'ai parlé de cette volonté harmonisatrice, symphonique d'Ashkevari, entre la philosophie, le chiisme et le soufisme. C'est aussi à l'intérieur de la philosophie qu'il s'emploie à réconcilier, à rapprocher, à synthétiser le platonisme, le néoplatonisme, incluant le néopythagorisme, et l'aristotélisme.
Bien. Alors, je reviens donc à ces résonances, ces analogies. On dit que chez Paracelse, par exemple, et son Imaginatio Vera, il y a peut-être quelques similitudes qu'on pourrait, sans vouloir forcer les choses, avec le monde imaginal. On peut les trouver chez les platoniciens de Cambridge, on peut trouver peut-être même du vivant d'Henri Corbin, il a vu quelque chose avec Bohème, Caspar Schwenkfeld, Swedenborg, chez ces théosophes. On peut le dire ou pas, et peut-être même finir avec ces correspondances qu'il y a entre Jung pour la psychologie et Corbin pour la métaphysique.
Oui, tout à fait. Bon, mais ça, c'est Henri Corbin qui a beaucoup recherché, en fait, ces correspondances.
Et ces analogies.
Ces analogies, tout à fait, qui sont justes, effectivement, d'un point de vue comparatiste et sans vouloir, effectivement, faire des rapprochements tout à fait systématiques et encore moins des reconstitutions historiques, puisqu'il n'y a pas eu de transmission de la philosophie islamique iranienne vers Paracelse ou Swedenborg. Je ne pense pas. Mais ce que montrent aussi ces analogies, c'est que, justement, par comparaison, si on peut trouver cette idée de manière récurrente chez des penseurs occidentaux avec tous les guillemets d'usage, ça n'a pas grand sens, ce sont des apparitions et des réapparitions épisodiques, sous des formes différentes. Et chez les auteurs, je pense à Swedenborg, qui n'étaient quand même pas, qui ne sont pas restés comme des penseurs centraux de la philosophie islamique, de la philosophie européenne, pardon, c'est pas Kant, quoi, on parle pas de Kant. Alors après, effectivement, il y a la question de l'époque d'Henri Corbin lui-même et de son rapport avec Carl Gustav Jung, rapport ambivalent pour le moins, également d'ailleurs chez les continuateurs ou les élèves d'Henri Corbin. Effectivement, on trouve chez Jung cette idée d'archétype, de l'imagination universelle, de l'inconscient universel contenant des archétypes qui sont des images, qui sont des symboles. Donc là, je pense qu'il y a effectivement tout à fait une analogie avec le monde imaginal des philosophes islamiques et notamment iraniens et chiites. On peut regretter que Carl Gustav Jung ne se soit pas penché sur cette tradition. Mais moi, il y a autre chose qui me fait faire le lien, d'ailleurs, avec la pensée psychanalytique, et pas seulement avec Jung, qui est quand même un peu en marge, disons, en tout cas par rapport à l'école freudienne. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que les plaisirs et les douleurs vécus dans et par l'imagination sont ontologiquement consistants et d'une intensité supérieure en réalité à ceux des sens. Et donc
le fameux fantasme sens premier du terme.
C'est ça, quoi. Voilà, le fantasme et le fantasme comme le lieu par excellence de la jouissance, de la souffrance, de la nostalgie, de l'attente, du désir, etc. Au point que, le paradis et l'enfer sont de l'ordre du fantasme. Si je peux ajouter quelque chose je suis désolé parce que ça revient, c'était pas la question que vous veniez me poser, mais par rapport à cette résurrection imaginale, il y a un aspect qui est extrêmement important parce que inattendu, c'est que cette rétribution dans l'isme, dans et par l'imagination, est une rétribution immanente, est une rétribution intrinsèque à l'âme humaine. Alors certes, c'est Dieu qui a créé le monde imaginal, mais la rétribution, la récompense, le châtiment que l'âme connaît dans le barzakh, l'isme ou le monde imaginal, c'est l'âme elle-même qui le nécessite et qui le produit. Et on peut se demander, à la lecture de l'Épître, et Dieu dans tout ça, qu'est-ce qu'il lui reste à la fin? Et qu'est-ce que le jugement dernier peut encore rétribuer après ce long interrègne du bazar et toute cette rétribution immanente de l'âme humaine? Donc là, on s'éloigne de la psychanalyse, quoique elle aussi cherche une forme de salut par la connaissance.
Merci infiniment. Merci Mathieu Terrier d'être venu nous parler du monde imaginal, de cet interrègne et de cet intermonde. Chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam. Vous la retrouverez, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture. Et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Cédric Châtelus et la réalisation par l'ami François Connac.